Pourquoi êtes-vous chrétien? Certains répondent parce que j'aime Jésus. D'autres répondent parce que je veux obéir à Dieu. Encore d'autres répondent parce que je veux être pardonné ou je ne veux pas être condamné. Si par chance, je pouvais vous prouver que Jésus n'a pas été ressuscité des morts, croyez-vous toujours en Christ? Resteriez-vous chrétien? Réfléchissez à ce que je vous demande. Parce que lorsqu'on réfléchit un peu, on se rend compte que la résurrection de Jésus est le principe fondamental de notre foi. Si Jésus n'a pas été ressuscité, il n'y a pas non plus de christianisme. Où serait notre espérance si notre fondateur est mort et enterré, et c'est tout? Les historiens sont d'accord qu'il y avait un homme au premier siècle nommé Jésus. Ils sont aussi d'accord que cet homme avait beaucoup influencé le monde, au moins à travers ses disciples. Cependant, peu d'historiens admettront que ce Jésus était divin. Pour eux, il n'était qu'un homme extraordinaire. Mais où serait la valeur en suivant quelqu'un qui n'était qu'un simple homme, comme vous et moi? L'apôtre Paul s'est basé sur la résurrection corporelle de Jésus. C'est lui qui a écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre foi est en vaine, parce que si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection des morts. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'est pas le Fils de Dieu, et en plus, il est menteur. On ne peut pas mettre confiance dans ses enseignements moraux, parce que moralement, il est le plus grand menteur de tous les temps. Si Jésus n'est pas ressuscité, la Bible est fausse, et il n'y a ainsi aucune espérance du salut. Si la Bible est fausse, il n'y a pas de péché ni de justice. Nous ne sommes que des êtres qui vivent et meurent. Il y a toutes sortes d'épreuves pour notre foi chrétienne. De nos jours, il y a des hindous, des musulmans et des bouddhistes parmi d'autres qui proclament chacun que sa religion est la vraie. Dans la chrétienté, il y a 100 ans et encore plus récemment, pendant les années 60, plusieurs théologiens ont dit que Dieu est mort. De plus en plus, il y a des influences d'humanisme et d'existentialisme. Selon l'Express, ces philosophies sont moins populaires actuellement, mais on vit toujours sous leur influence. Combien de gens sont dans le désespoir total? Beaucoup. Peut-être même la plupart. Une épreuve qui attaque notre foi, c'est l'athéisme qui vient de ces philosophies des hommes. Le philosophe athée Anthony Flew a développé la parabole suivante afin de démontrer combien, selon lui, notre foi est dénuée de sens parce qu'on ne peut pas la prouver objectivement. Il dit, « Il y avait jadis deux explorateurs qui trouvèrent une clairière dans une forêt. Beaucoup de fleurs et de mauvaises herbes y poussaient. Un des explorateurs dit, il y a certainement un jardinier qui s'occupe de ce lopin de terre. L'autre n'était pas d'accord. Il n'y a pas de jardinier, dit-il. Alors, chacun planta sa tente et s'assit pour regarder. Aucun jardinier ne fut jamais vu. Peut-être le jardinier est invisible, suggéra l'un à l'autre. Alors, ils construisirent une barrière électrifiée. Ils firent des ronds avec des lignées, mais il n'y eut aucun bruit, il n'y eut pas de trace d'un intrus. Les chiens ne donnèrent pas d'alarme. Cependant, le croyant ne fut pas convaincu. Il y a un jardinier, dit-il, mais il est invisible, insensible aux secousses électriques, et il vient en secret pour s'occuper du jardin. Le sceptique désespéra, mais enfin, où est votre affirmation originale? Comment un jardinier invisible, intangible et éternellement insaisissable diffère-t-il des jardiniers imaginaires? Pour d'autres religions, cette parabole peut être une condamnation. Mais contre le christianisme, je veux dire le vrai christianisme, elle ne tient pas debout. Le chrétien ne croit pas dans un jardinier dans ce monde sans évidence. Nous avons l'entrée actuelle et observable du jardinier dans le monde, en la personne de Jésus-Christ. Cette entrée dans le monde peut être vérifiée à travers la résurrection parmi d'autres évidences. Ainsi, la résurrection est importante en ce qui concerne notre espérance. Premièrement, la résurrection de Christ nous montre qu'il y a plus que cette vie. Après cette vie, Dieu me tiendra dans ses mains, et c'est à ce moment-là que la vraie vie commencera. Je n'ai pas donc de grand peur de la mort. La mort a déjà été vaincue en Jésus-Christ. Deuxièmement, la résurrection me dit que je peux être ressuscité à la vie maintenant. Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Comme chrétien, mais à cause de la résurrection de Jésus, je peux vivre une vie pleine de dessein, d'amour et de service maintenant. Troisièmement, la résurrection de Jésus fortifie ma foi dans l'efficacité de la prière. Le même Dieu qui a la puissance de créer la vie et de restaurer la vie a la puissance de répondre à mes prières. Si Jésus a été ressuscité, c'était l'événement le plus sensationnel de toute l'histoire. Dieu ressuscite les morts. Et ainsi, il a aussi la puissance de répondre à mes besoins. Puisque la résurrection de Jésus est le fondement du christianisme, c'est le plus souvent le point d'attaquer, d'affouiller. Dans les années 1930, un jeune avocat anglais, Frank Morrison, se proposait d'attaquer la résurrection de Jésus. Il était convaincu que la résurrection n'était que des mythes. Sachant que la résurrection était le fondement du christianisme, il s'est décidé de rendre un grand service au monde en exposant la fraude et la superstition de la résurrection. Étant avocat, il a déterminé de n'admettre aucune évidence qui ne serait pas acceptée dans un tribunal. Cependant, en faisant ses recherches, il est arrivé à une conclusion inattendue. Comme résultat, le premier chapitre de son livre intitulé « La résurrection, mythe ou réalité » avait pour titre « Un livre qui ne devait pas être écrit ». Et dans ce chapitre, il avoue qu'en examinant l'évidence, il a été convaincu de la résurrection et ainsi il n'a pas écrit le livre qu'il a voulu écrire. Il termine le premier chapitre comme ceci. Je vais essayer dans les chapitres suivants d'expliquer pourquoi cette entreprise n'est jamais arrivée à bon port, de décrire les récifs cachés qui l'ont fait échouer et de raconter comment j'ai finalement atteint un rivage que je n'avais pas visé au départ. Considérons maintenant quelques raisons pour croire que la résurrection a eu lieu, et ces raisons sont tirées de ce livre « La résurrection, mythe ou réalité » par Frank Morrison. Premièrement, il y a l'existence de l'Église. L'Église est universelle. On peut remonter jusqu'à son origine vers l'an 30 de notre ère, mais l'Église existe-t-elle? Était-elle un accident ou avait-elle une raison pour son existence? Il y avait une raison, plusieurs raisons même. Il y avait tout d'abord la venue de Jésus et il y avait ensuite sa résurrection. Les disciples appelés chrétiens pour la première fois à Antioche ont littéralement bouleversé le monde par leur conviction. La résurrection était le point de référence pour leurs enseignements, leur prédication, leur vie et leur mort. Deuxièmement, il y a l'évidence du tombeau vide. Et cette évidence est peut-être une des plus fortes. Comment expliquer le tombeau vide? L'explication la plus vieille, c'est que les disciples ont pris le corps de Jésus. Selon Matthieu 28, les versets 11 à 15, les principaux sacrificateurs ont payé les gardes à dire que les disciples ont dérobé le corps pendant qu'ils dormaient. Premièrement, aucun tribunal juste accepterait le témoignage des gardes s'ils admettaient qu'ils dormaient. Deuxièmement, dérober le corps voudrait dire que les disciples étaient des menteurs et qu'ils étaient responsables pour avoir trompé et causé la mort des milliers de personnes. Et troisièmement, chacun des disciples a dû passer par des supplices et des menaces de mort, mais ils n'ont pas renié leur foi. Les hommes mourront peut-être pour ce qu'ils croient est vrai, bien qu'il soit faux, mais les hommes ne meurent pas pour ce qu'ils sachent d'être un mensonge. Une deuxième explication du tombeau vide, c'est que les autorités juives ou romaines ont pris le corps. Mais pourquoi? C'était elles qui voulaient placer la garde et qui avaient scellé la pierre afin d'empêcher une plus grande imposture. En plus, si les autorités avaient pris le corps, ils auraient dû le produire et ainsi exposer la déception des disciples. Produire le corps aurait été beaucoup plus facile que d'empêcher la semence de la bonne nouvelle par l'arrestation de Pierre et Jean, par exemple. Une troisième explication souvent citée, c'est que les femmes se sont trompées dans le chagrin et qu'elles sont allées voir un autre tombeau qui était vide, et ainsi elles ont imaginé que Jésus a été ressuscité. Encore, on peut poser la question, pourquoi les autorités n'ont-elles pas produit le corps? En plus, Pierre et Jean auraient-ils fait la même erreur en allant à un autre tombeau? Quatrièmement, il y a l'explication appelée la théorie d'évanouissement, c'est-à-dire Jésus n'est pas mort, mais qu'il s'est évanoui à cause de la fatigue et de la perte du sang. L'explication continue. Dans la fâcheur du tombeau, Jésus a repris connaissance, il est sorti du tombeau, il est allé aux rencontres des disciples et par erreur, il le croyait ressuscité. D'abord, il faut comprendre que cette théorie est plus récente que les autres. Les plus vieilles sources sont positives que Jésus est mort. Par exemple, Jean 19, 34, l'évangile de Jean, écrit vers les années 90 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ plutôt. Dans ce passage, il dit qu'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ensuite, si Jésus s'est évanoui et a été enterré vivant, aurait-il pu survivre 3 jours dans un tombeau scellé, sans nourriture ou l'eau, et sans soins médicaux? Aurait-il pu survivre en étant enveloppé de bandes avec des aromas de presque 50 kilos? Aurait-il eu la force pour se délier des bandes, pour ôter la pierre de l'entrée, pour assommer les gardes et puis pour marcher 2 ou 3 kilomètres, au moins, sur les pieds qui avaient été percés par des clous? Même le sceptique allemand David Strauss ne croyait pas que la théorie d'évanouissement était valable. Il dit, il est impossible que quelqu'un qui vient de sortir d'un tombeau à moitié mort, qui s'avance en rampant, qui a besoin de soins médicaux et qui enfin meurt dans la souffrance pour donner l'impression d'un vainqueur de la mort et du tombeau, et qu'il était le prince de la vie. Une troisième évidence de la résurrection, c'est l'ensemble des apparences de Jésus. Il y a au moins 10 apparences racontées dans le Nouveau Testament. Il y a une grande variété en temps, d'endroits et de personnes. Trois de ces apparences étaient aux individus, Pierre, Jacques et Paul. Il y avait des apparences aux disciples en groupe et une apparence à plus que 500 personnes à la fois. Peut-être l'explication la plus vieille, la plus connue pour réfuter les apparences de Jésus, c'est la théorie d'hallucination. Une hallucination, c'est un état où on aperçoit des faits ou des objets qui n'existent pas. Il y a des hallucinations visuelles et auditive.
D'abord, les gens qui ont des hallucinations sont généralement des personnes qui ont une imagination vive et qui sont nerveuses.
Jésus est apparu à toutes sortes de personnes. Certaines étaient probablement émotionnelles, mais il y avait aussi des personnes têtues comme Pierre et plus tard Paul. Il y avait aussi probablement des Thomas et qui ont demandé des preuves.
Ensuite, les hallucinations sont extrêmement subjectives et individuelles, c'est-à-dire il n'y a pas deux personnes qui ont la même expérience.
Jésus n'est pas apparu aux individus seulement, mais au groupe, une fois à plus de 500 personnes, qu'on a déjà dit.
Et puis, pour avoir une hallucination, il faut la vouloir. C'est-à-dire, on peut entendre ou voir quelque chose, on veut entendre ou voir quelque chose tellement qu'on imagine de l'avoir vu ou entendu. Il y a l'exemple de la mère qui a perdu son fils à la guerre. Elle se rappelle qu'il rentrait à la maison tous les jours à 5h30. Un après-midi, elle est assise en train de méditer. Enfin, vers 5h30, elle imagine que son fils entre dans la maison et elle a une conversation avec lui. Elle ne vit plus dans la réalité. Elle vit une hallucination. Mais les disciples ont été convaincus contre leur volonté. Marie est allée au tombeau pour embaumer Jésus. Elle n'attendait pas qu'il soit ressuscité des morts. Pierre et Jean ont couru au tombeau pour vérifier l'histoire des femmes. Thomas a demandé de lui toucher. Paul était en train de persécuter les chrétiens quand Jésus lui est apparu. Une quatrième raison pour croire que Jésus a été ressuscité, c'est le changement dans les disciples. Avant la crucifixion, ils avaient été des lâches. Le jeune homme qui s'enfuit tout nu. Il y a Pierre qui avait renié Jésus 3 fois et avec serment. Mais après la résurrection, ils étaient des hommes courageux et pleins de conviction, même en face de la mort. La résurrection donne de l'espérance, mais en plus elle montre la puissance et la volonté de Dieu. Dieu a accompli ses promesses. Jésus savait qu'il mourrait et il avait prophétisé qu'il serait ressuscité. Encore dans l'évangile de Jean, chapitre 2, le verset 19, Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Je le relèverai, et bien sûr, il parlait de son corps. Les juifs n'ont pas compris, et selon Matthieu 27, pendant qu'il était sur la croix, ils se moquaient de lui. « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix, et nous croirons en lui. Jésus ne s'est pas servi de son pouvoir pour se sauver. Mais il a démontré un plus grand pouvoir en restant attaché à la croix jusqu'à la mort et 3 jours plus tard en étant ressuscité des morts. Finalement, il y avait l'effet de la résurrection aujourd'hui. Il y a l'effet de la résurrection aujourd'hui. Je ne cesse jamais d'être étonné par combien la résurrection change des vies. J'avais étudié avec plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient la difficulté de croire en Dieu et surtout en Jésus comme fils de Dieu. Mais une étude de ce que Jésus a souffert sur la croix et puis une présentation de quelques évidences pour la résurrection les ont toujours fait réfléchir. La résurrection est mon espérance. Je la crois, c'est réel. Et parce que je la crois, j'ai le courage de faire face au désenchantement et au chagrin de la vie. Comme Paul, je peux dire, je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. J'espère que quelque chose qu'on a dit ce matin peut vous donner une plus grande foi et une plus grande espérance en Christ.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous n'êtes pas ressuscité, faites-le, afin de bénéficier de la bénédiction de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut. Cherchez-les, mais aussi partagez-les avec les autres. Amen.